Et tout de suite, nous allons parler du médicament que tous les chercheurs attendent, du médicament dont tous les chercheurs parlent aussi depuis des mois et qui vient d'obtenir enfin son autorisation de mise sur le marché européen. C'est le lecanemab. Pour m'en parler, j'ai demandé à Nicolas Villain, qui est neurologue, chercheur à l'IM2A, à l'hôpital Salpêtrière, de nous rejoindre. Il est sorti de son laboratoire pour nous aujourd'hui. Nicolas, votre défi aujourd'hui va être de répondre en seulement 20 minutes. Allez, on va vous en donner 20. Aux 1000 questions qu'on se pose sur ce sujet, et vous avez publié un article remarqué qui souligne l'importance de prescrire ce médicament au bon moment, à la bonne personne, et ça fait partie des 1000 questions qu'on se pose aujourd'hui.
Merci Agnès, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Olivier, merci à tous les membres de la Fondation pour leur confiance renouvelée, très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Alors, puisque je vous parle de médicaments, je vais vous parler de liens d'intérêt. C'est important pour savoir qui vous parle de médicaments. Est-ce que moi-même, j'ai des liens d'intérêt avec l'industrie qui fabrique ces médicaments? Alors là, vous les avez en détail, c'est difficilement lisible. Donc, je vais vous le lire pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, je participe à des essais cliniques. C'est-à-dire que dans mon unité, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, on participe à ces médicaments expérimentaux, ces essais de phase 1, 2 ou 3. Ces médicaments, évidemment, sont payés par les laboratoires. Donc, en tant que médecin investigateur dans ces essais, c'est-à-dire qu'y recrutons les patients pour participer à ces essais, évidemment, on est payé. Donc, en l'occurrence, le système français permet de garder son indépendance, c'est-à-dire que moi, je ne touche aucun centime, mais mon hôpital, mon employeur, est donc remboursé par le laboratoire pour le temps que je passe à ces inclusions. C'est toute la liste des essais cliniques que vous avez sur votre droite. Et à gauche, ça vous dit l'argent que j'ai reçu, c'est que de l'argent de fondation, il n'y a pas d'argent de laboratoire, et vous m'avez peut-être vu donner des conférences à l'occasion de symposia payés par des laboratoires. Sachez qu'à cette occasion, je n'ai pas demandé de rémunération, donc en gros, pour résumer, à titre personnel, je ne me fais pas un centime de l'industrie, même si, évidemment, ça fait partie du travail. Il faut discuter avec l'industrie, parce que c'est elle qui fait cette recherche, qui la finance. Donc évidemment, ce dialogue se doit d'être souligné. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Des médicaments qui existent, en premier. Des médicaments à venir, on a parlé du lecanemab, et on va y passer beaucoup de temps. Et peut-être une piste facile, simple et beaucoup moins coûteuse, les vaccins. Alors commençons par les médicaments d'aujourd'hui. Petit rappel sur la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas mon infographie, je laisse des vrais professionnels de l'infographie faire des beaux dessins. Moi, je suis absolument mauvais. Ce n'est pas mon travail, d'ailleurs. Donc, voilà, j'ai pris cette source. Elle est citée sur le site du Parisien, qui, je trouvais, illustrait très bien les choses de manière assez simple. Donc, vous avez en haut un cerveau qui n'est pas malade, qui a donc plusieurs zones. Dans ces différentes zones du cerveau, ont différentes fonctions pour simplifier les choses, même si beaucoup de choses sont dynamiques et se font en réseau. Et puis, votre cerveau est composé évidemment de milliards de neurones qui sont les cellules qui composent le cerveau, entre autres aider d'autres cellules, et elles communiquent entre elles avec des synapses. En bas, dans la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez des protéines qui sont des molécules, un type de molécules, les mêmes qu'on trouve dans notre viande, mais cette fois-ci, elles ont d'autres fonctions dans les neurones, notamment les protéines tau et les protéines bêta-amyloïdes qui, soudainement, à l'occasion de facteurs qu'on ne connaît pas très bien d'ailleurs, vont se mettre à dysfonctionner, et quand elles vont dysfonctionner, elles vont s'agréger, elles vont former des agrégats qui deviennent visibles au microscope, alors que d'habitude, ces protéines-là, elles sont présentes, mais elles ne s'agrègent pas, elles sont donc invisibles, elles sont solubles dans le liquide. Et donc ces protéines sont toxiques et vont entraîner un dysfonctionnement des neurones, des synapses, donc les éléments qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Et petit à petit, le cerveau va s'atrophier, les neurones vont mourir de plus en plus vite et donner les images que vous avez en bas à gauche, que l'on peut voir à l'IRM, où vous avez votre cerveau qui perd du volume. Les traitements actuels, ils ne ralentissent pas la maladie. Les traitements actuels, ils marchent, si vous voulez, si on peut simplifier, comme un pansement sur un cerveau malade. Ils améliorent modestement les symptômes de la maladie, notamment la concentration, la mémoire, mais pour autant ils ne conduisent pas à un ralentissement en soi. Ce n'est donc pas un médicament, malheureusement, qui soigne la maladie. Ils ont une certaine efficacité, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais voilà, ils ont une efficacité qui reste symptomatique, dans notre jargon, symptomatique voulant dire qu'on améliore les symptômes sans jouer sur la maladie. Comme tout médicament, pardon, on va rester sur les symptômes à gauche, un graphique très compliqué, il faut regarder ce qui se passe en bas. La courbe du bas, c'est les patients qui n'ont pas de traitement. Les autres courbes, c'est différents traitements ou différentes combinaisons de traitements. C'est une étude britannique qui avait été conduite il y a 15 ans maintenant. Une très belle étude qui faisait suite aux études Princeps, qui avait pas mal de limites. Une étude en vie réelle qui cherchait à voir si ces médicaments, finalement, quand on les arrêtait, est-ce que ça se passait bien ou pas. Eh bien, la réponse était bah, il faut quand même les continuer. Parce que quand on les arrête, vous voyez, c'est la courbe du bas. Et plus on va vers le bas, moins ça va. Et la courbe du haut, bah, c'est les patients qui continuaient les médicaments. Ça avait été une étude qui a été menée sur un an et qui montrait que ces médicaments, vous voyez, ils n'enrayent pas le cours de la maladie, la pente est toujours descendante, mais quand même, elle est un petit peu plus haute, cette pente, que celle du bas. Donc, les gens vont un petit peu mieux. Et ce petit peu mieux se traduit quand même, d'un point de vue purement pragmatique, médico-économique, par des admissions aux urgences qui sont un petit peu moins nombreuses, par des admissions en maison de retraite qui le sont également un peu moins. Donc, cet effet est modeste, mais réel. Ces médicaments, ils sont en haut à droite, il y en a trois, ils sont aujourd'hui tous génériqués, hein, plus personne ne se fait d'argent dessus, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt là. Et ce sont des traitements assez simples, ce sont des comprimés ou des patchs, donc des traitements oraux. Voilà. Ils ont quelques effets secondaires qu'il ne faut pas négliger, hein, médicaments veut toujours dire effets secondaires. Donc ils sont notamment responsables de certains troubles digestifs, un inconfort, des diarrhées ou des crampes, qui peuvent parfois entraîner l'arrêt du traitement. Donc voilà ce qu'on a à l'heure actuelle. Si on essaie de résumer les formes et les faiblesses, c'est des médicaments qui, grosso modo, à droite, marchent un peu, modestement, comme je vous ai dit, mais un petit peu. N'ont pas vraiment d'effets secondaires graves quand ils sont prescrits correctement, mais en revanche, voilà, peuvent quand même avoir des effets secondaires inconfortables. Et ces effets secondaires, je suis désolé, les couleurs, ça passe pas du tout. Mais en bas, c'est écrit « arrêt à cause des effets secondaires ». Eh bien, les arrêts à cause des effets secondaires sont quand même notables hein, dans ces médicaments. Donc, c'est jamais grave, mais voilà, c'est suffisamment inconfortable pour que les gens arrêtent d'en prendre au bout d'un moment. Donc, c'est loin d'être parfait, mais c'est ce qu'on a. Ce qui change avec le Nécanemab maintenant. Donc là, on parle d'une toute autre catégorie de médicaments. On revient à notre petit graphique du départ. Cette fois-ci, l'objectif, c'est pas de marcher comme un pansement sur un cerveau malade, mais d'essayer de nettoyer les protéines justement qui s'agrègent de façon anormale et qui sont toxiques, et notamment une des deux qui s'appelle la protéine bêta-amyloïde. On en a parlé tout à l'heure. Donc ces plaques séniles, eh bien, ce médicament, il va essayer de s'en débarrasser. Donc comment il fait ? Ce médicament, c'est un anticorps. Alors un anticorps, c'est quoi ? On sécrète tous des anticorps, on a tous des anticorps dans notre corps, notamment ça nous sert à nous défendre contre pas mal d'infections. Eh bien là, on va synthétiser des anticorps artificiels et on va les diriger, non pas contre des bactéries qui vous embêteraient, mais contre ces plaques amyloïdes. Et donc, ces traitements s'appellent des anticorps monoclonaux. C'est sous la forme d'une perfusion que vous avez en bas à droite. Et quand on les met dans le sang, après, elles arrivent à passer la barrière entre le sang et le cerveau, et elles vont, au milieu, s'attaquer à ces petits agrégats de protéines amyloïdes pour, en s'attachant dessus, déclencher une réaction inflammatoire qui va faire que le cerveau va ensuite se débarrasser de ces plaques. Donc voilà le mécanisme, vous voyez, très différent des médicaments qui existent jusqu'à présent, parce que là, on essaie de s'attaquer au mécanisme de la maladie. Alors, le lecanemab, pour bien comprendre si c'est un traitement qui marche ou qui ne marche pas, il faut déjà comprendre chez qui on l'a testé. On l'a testé chez pas tous les malades qui souffrent de maladie d'Alzheimer, mais seulement certains. Déjà, ça va vous expliquer que ce médicament ne va pas être destiné à tous les malades, malheureusement, mais à seulement certains malades. On les a testés dans notre jargon, ce qu'on appelle les stades débutants de maladie d'Alzheimer. Les stades débutants, c'est ce qu'on appelle là, ce que vous avez au milieu, MMSE 22-30. Donc, MMS, c'est une échelle assez générique de sévérité de la maladie. 30 étant le meilleur score et 0 le plus faible. Donc, 22-30, on est sur le tiers le plus léger de la maladie. Ce sont des gens, des patients à qui il y avait eu un dosage de biomarqueurs. Donc, on avait confirmé qu'il y avait bien des protéines amyloïdes dans le cerveau. et on oublie la partie IRM, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est 1800 patients dans le monde entier, âgés entre 50 et 90 ans, au stade léger de la maladie d'Alzheimer, qui ont reçu ce traitement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sur les 1800, vu que c'est un essai de phase 3 randomisé en double aveugle, etc., etc., contre placebo, 900 étaient dans un groupe placebo. 900 recevaient le lecanemab, ce pendant 18 mois. Donc tous les graphiques maintenant que je vais vous montrer vont durer 18 mois, c'est le temps qui avait été prédéfini par le laboratoire quand il a conçu son essai pour se dire, bon, au bout de 18 mois, je devrais pouvoir voir quelque chose. Et qu'est-ce que vous voyez ? Ça, c'est, on reviendra un peu sur l'axe des Y, des ordonnées, pour vous expliquer en pratique ce que c'est. Mais sur l'échelle, on va dire principale, eh bien, le traitement marche. C'est-à-dire sur une échelle qui évalue à la fois les troubles cognitifs et la perte d'autonomie des patients, une échelle qu'on appelle la CDRSB, eh bien, le traitement marche. C'est-à-dire qu'en noir, vous avez le groupe placebo. Donc, les patients qui ont reçu donc des perfusions de sel, qui n'avaient pas le traitement actif, qui pouvaient recevoir le traitement d'ailleurs dont on a parlé auparavant. Mais voilà, donc ils ont observé le déclin qu'on observe malheureusement habituellement dans cette maladie en 18 mois. Et en vert, vous avez les patients qui non pas ont reçu le placebo, mais le traitement actif. Donc, vous avez une différence. Vous voyez, la pente semble s'être un peu infléchie. C'est un peu infléchi, dépasse tous les biais statistiques possibles et imaginables et a été confirmé sur tous les critères qui avaient été prévus à l'avance pour évaluer l'efficacité de ce médicament, des échelles de mémoire, des échelles de fonction, des critères d'imagerie, etc., etc. Je vous passe les détails. Quelques chiffres, parce que c'est important quand même de se mettre quelques chiffres en tête. Cette différence au bout de 18 mois, elle fait 27% de différence. Le groupe placebo, vous voyez, c'est aggravé d'environ 1,6 points sur cette échelle, quand le groupe traité, environ 1,2. Ça fait 27%. Maintenant, quand on regarde les chiffres de manière absolue, on a 0,45 points. Donc 0,45 sur 1,6, donc ça fait 27%. Sauf que, et on y reviendra, cette échelle, elle en comporte 18 points. C'est-à-dire que dans ces 18 mois, on a eu une petite fenêtre de l'évolution générale de cette maladie. Sur 18 mois, les patients dans le groupe placebo sont aggravés d'1,6 points et il y a en tout 18 points possibles d'aggravation. Donc vous voyez qu'on est quand même sur une vision, on y reviendra, assez limitée de l'évolution de la maladie. Mais ça marche. Ces médicaments ont des effets secondaires, comme tous les médicaments, me direz-vous. Oui. Et ceux-là, ils ont un joli nom, un nom qui vous dit peut-être quelque chose pour les amateurs d'opéra, une aria, un chant lyrique. Une aria, c'est un beau nom dans notre langue, ça nous évoque plutôt des choses positives. Ici, c'est un petit peu moins positif. C'est un acronyme, en fait, aria anglo-saxon, qui veut dire, je vais vous le dire en version traduite, qui veut dire ce sont les anomalies visibles à l'IRM, qui sont liées à l'élimination de ces protéines amyloïdes. Donc justement, je vous ai dit, quand ces anticorps arrivent dans le cerveau, ils peuvent déclencher des réactions inflammatoires pour les éliminer, et bien des fois, l'inflammation peut un peu s'emballer. Quand elle s'emballe, ça s'appelle une aria. Donc déjà, ça paraît un peu moins sympa, dit comme ça. Et donc, des arias, il y en a deux types. Il y a des œdèmes, le cerveau qui se met un peu à gonfler, et des hémorragies, le cerveau qui se met à saigner. Dans l'essai dont je vous parlais, il faut quand même noter que 9,5% des patients sous placebo ont fait une aria. Mais deux fois plus en ont fait sous patients traités. Ça, ce n'est pas lié au hasard. Donc, c'est bien que le traitement induit ces œdèmes et ces hémorragies. La plupart du temps, ces arias se sont vus à l'IRM, mais ne se sont manifestés par aucun symptôme. Mais quand même, dans 1% des patients traités, ça s'est mal passé. Il y a eu des effets secondaires dits graves, qui ont au moins nécessité une hospitalisation. Il n'y a pas eu de décès lié à ces arias dans l'étude, mais quand même, 5 cas ont été dans l'extension dus à ces arias. Donc, on peut en mourir. Pas fréquemment, mais on peut. Donc, ces arias, c'est l'effet secondaire principal de ce médicament. Donc, il faut ne pas le mettre sous le tapis, il faut le prendre en compte. Et c'est ce qui va expliquer que ça va être pour certains patients, mais pas pour d'autres. Pourquoi ? Parce que certains patients ont malheureusement un risque accru de faire des arias. Ce sont les patients qui présentent deux copies d'un gène d'un variant d'un gène que l'on a tous, qui est l'APOE, qui est aussi un facteur de risque d'Alzheimer. Certains variants de cette APOE sont associés à x6, un risque x6 de faire une ARIA. Les patients sous anticoagulants également. Donc, en fait, on va surveiller régulièrement, en début de traitement, avec des IRM, ces ARIA. Mais, quand on met en comparatif, on parlera peut-être après, APOE, on y reviendra. Quand on essaie de mettre en tête-à-tête les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et le lecanemab, quand on prend sur des échelles comparables, des patients comparables, on voit quand même que ce lecanemab, vous voyez, il marche mieux que ce qu'on a déjà. Mais vous voyez aussi la case effets secondaires graves, donc ce sont ces ARIA qui sont quand même nettement plus notables que ce que l'on avait avec les traitements actuels. Donc on a un traitement qui marche mieux que ce qu'on a, qui marche en plus que ce que l'on a, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Pour autant, il faut faire attention à cause de ces ARIA. Donc, tout l'enjeu, ça va être aussi de discuter finalement les bénéfices et les risques. Hein, comme tout médicament, c'est un équilibre entre les bénéfices attendus et les risques. Quels bénéfices ? Eh bien, ce médicament s'est prouvé efficace sur le maintien de l'autonomie, sur la charge des aidants, sur la qualité de vie. Donc, ce n'est pas juste un médicament qui vous donne quelques points de mémoire sur un test fait sur le coin d'une table. Non, c'est un médicament qui a un impact significatif sur des échelles qui ont du sens. Pour autant, ce qu'on appelle la taille d'effet, l'amplitude, elle reste faible à modérée. Ça, c'est ce qu'on voyait, ce 0,45 points sur l'échelle quand on fait 18. C'est vrai que ça fait petit. Si on imagine ces deux courbes qui étaient parfaitement superposées au début de l'essai, qui représentent toute la diversité de la population de patients testés, eh bien, à la fin de l'essai, vous voyez comment elles peuvent se séparer. Donc, elles sont un tout petit peu séparées, mais elles restent encore très superposées. Donc, effectivement, la taille de l'effet est là, mais elle est modeste. Il y a aussi une inconnue sur l'effet à long terme. Comme je vous ai dit, ce médicament est censé s'attaquer à ses protéines. Il s'y attaque, ça nettoie le cerveau de ses protéines. Donc, on a un espoir qu'à long terme, il puisse amener un plus grand bénéfice que ce 0,45 points. Parce que ça, sur l'axe des Y, là vous avez à nouveau l'échelle qui va de 0 à 18, et sur l'axe des X, sur les abscisses, vous avez la durée de la maladie. Et donc vous voyez que c'est une maladie qui a une durée de vie très longue, avant que les symptômes arrivent, puis même une fois qu'elle est déclenchée. Ça dure 15 à 20 ans. L'essai dont je vous parle sur 18 mois, c'est ça. C'est la petite fenêtre claire sur ces 15 à 20 ans de maladie. Et donc sur ces 15 à 20 ans, voilà ce qu'on a observé. Ces 0,45 points, c'est 27%. Donc vous voyez que c'est modeste, vu comme ça. Toute la question, c'est est-ce que cet effet va rester 27% sur les années qui restent après? Et là, ça fait quand même 35 mois de gagner sur la maladie. Ou est-ce que l'effet ne va pas s'amplifier après ces 18 mois et ça fera qu'un effet de 6 mois? Ça, c'est encore une inconnue à ce stade. Ça fait partie des choses qu'on ne sait pas encore sur ce médicament, mais pour lequel il est effectivement possible qu'on soit à 35 mois. Alors, où est-ce qu'on en est? Ce médicament, vous voyez, donc marchant sur des items qui ont du sens, mais avec ses effets secondaires, eh bien, les régulateurs du médicament n'ont pas tous pris la même décision. Il a été autorisé aux États-Unis, dans les pays du Golfe, au Japon, en Chine, refusé en Australie, et en Europe et au Royaume-Uni. Eh bien, on a dit oui, mais seulement sur un sous-groupe. Sur ceux qui ont le moins de risques de faire ces ARIA, ces œdèmes et ces hémorragies, on garde les bénéfices, mais on diminue les risques, ce qui en fait un médicament plus intéressant. Donc, voilà où on en est. Ça a été autorisé au niveau européen au milieu du mois dernier, mi-avril, donc l'avant-dernier mois. Mais ce graphique est très compliqué. En deux mots, maintenant, on est à l'échelle nationale, on est à l'échelle française. Vous savez, les médicaments sont d'abord autorisés pour les plus chers au niveau européen, puis après, c'est au niveau du régulateur français de décider s'il rembourse ou pas. Donc là, c'est entre les mains de la Haute Autorité de Santé qui va décider si on peut ou pas l'avoir, notamment par le système de l'accès précoce qui permettrait d'avoir le médicament le temps de la négociation du prix dans les mois qui viennent. Mais ce n'est pas encore décidé.
Et pour vous, les personnes qui seraient prioritaires pour ce médicament, ce sont...
Les voilà. Donc ce serait pour les patients donc, au stade débutant de la maladie, qui ont une IRM compatible, qui ne sont pas homozygotes APOE4, ça représente 15% des malades, les APOE4 homozygotes, et qui n'ont pas d'anticoagulants. Voilà pour qui, voilà comment, c'est une perfusion toutes les deux semaines, avec des surveillances IRM régulières. Et je voudrais juste finir avec un message d'espoir sur une autre approche, qui est celle du vaccin. Récemment, vous en avez peut-être entendu parler par votre médecin traitant, des vaccins contre le zona sont remboursés et recommandés en France pour les plus de 65 ans. Donc depuis le mois de décembre dernier, notamment le vaccin Shingrix. Eh bien, on s'est rendu compte que ce vaccin, au Pays de Galles, en Australie et aux États-Unis, alors qu'il n'a pas été fait pour ça à la base, eh bien, il diminuait le risque de développer une maladie d'Alzheimer. 20%, 30%, 17% dans ces trois études de taille subséquente, vous voyez, entre 300 000 et 100 000 patients qui ont été traités à chaque fois, ont montré de manière très robuste, en population réelle, que les populations qui ont été vaccinées versus celles qui ne l'ont pas été avaient 20% de moins de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Voilà, donc pour retenir, le lecanemab, c'est un médicament qui marche, modestement certes, mais qui marche, destiné seulement aux formes précoces de la maladie. Il n'est pas destiné à tout le monde du fait de ses effets secondaires et de sa balance bénéfice-risque. Et enfin, vaccinez-vous contre le virus du zona, parce que ça peut, au passage, diminuer aussi votre risque de démence. Merci beaucoup et désolé d'avoir des
Merci beaucoup, Nicolas Villain.